expérience socio-sémiotique anticipative. Vivre à Paris, où la scène est nerveuse en ce printemps 2017. Les élections présidentielles battent leur plein depuis quelques mois et la lutte s'est resserrée pour le deuxième tour autour de deux candidats, François Hollande pour la droite de la gauche, Marine Le Pen pour la droite de la droite. La presse et les médias spécialisés s'ingénient à relever la discordance des programmes politiques, mais rien n'y fait. Ils sont eux-mêmes gagnés par la tendance lourde, people, violente sous le glamour et romancé de l'imaginaire social. Dans la marée incessante des émissions de radio et de télévision, des vidéos circulant sur le net, des blogs, des capsules amitieuses de Facebook et des petites vides de Twitter, dans les pastiches, dans les parodies, les raps qui naissent au quart de tour, dans les calembours, les imitations et les satires d'un humour désormais obligatoire, dans les déclarations, les interviews, les livres, les quotidiens, des bons mots du coin des bars aux diatribes sur les places de marché, de la propagande des partis aux commentaires aigres des candidats éconduits, de tout ce magma ressortent tant mal que bien deux histoires racontées, deux rythmes de parole, deux façons de donner la réplique et de jouer les mots, deux manières de dire, connaître le monde, deux treillis d'images que les affiches et les écrans reproduisent à l'envi. Sur le plan narratif, les deux candidats se sont emparés chacun d'un modèle héroïque. Marine Le Pen, qui a le vent en poupe, se projette en Sainte-Geneviève, en Jeanne d'Arc et en Brunhilde. Comme la première, Sainte-Geneviève, elle défend Paris et la France face aux millions de migrants qui, tel Attila, menacent chaque jour d'empêcher l'herbe d'y repousser. Comme la seconde, Jeanne d'Arc, elle s'apprête à bouter les étrangers hors de France, ainsi que les sans-papiers, et se dit prête à se battre jusqu'au bout. Comme la troisième, Brunhilde, elle est prête à armer Siegfried pour qu'il monte à garde aux frontières de la nation qu'elle va recréer. François Hollande, qui est à la traîne et qui n'est là que parce que Nicolas Sarkozy et Alain Juppé se sont mutuellement annulés au premier tour, tente de refaire le coup de 2012 et se compose un récit où il figure un héros schizophrène, oscillant entre héroïsme et cabane à sucre, c'est-à-dire entre le chef de guerre qui a traversé de terribles épreuves mais qui a pris ses responsabilités et le bonhomme repris, genre ancien premier de classe bien habillé, qui aime les calembours et le Nutella. Sur le plan cognitif, Marine Le Pen se nourrit au sein de la grande histoire. Elle se déclare la fille de la France éternelle, sa mère de sang. Hollande, lui, s'abreuve au bac de l'économie, vante son bilan contre vents et marées, se déclare libéral, socialiste, démocrate, européen, républicain, jure qu'il a semé des grains qui vaudront 2 points de croissance de plus en 2018 et se dit ami de l'Europe de demain, dont il rêve d'être le parrain baptismal. Des deux côtés, cependant, le seul savoir qui compte vraiment, c'est l'arithmétique. L'arithmétique pavoise en des querelles de chiffres et de statistiques incomparables et pourtant tout le temps systématiquement comparées. Cette mathématisation du social jure avec un autre savoir, cependant, celui tiré de la chronique médiatique et de l'histoire récente, où deux mots dominent, la peur, la sécurité. Sur le plan politique, la championne de l'extrême droite a l'avantage d'un signifiant prénominal marqué de voyelles claires, performatif, puisqu'il évoque l'aventure, le vent du large, et lui donne une couleur dont elle abuse, le bleu marine. Tandis que la base rythmique de son patronyme est idéale, lui donne un très bon beat, puisqu'elle est symétriquement scandée par une nasale deux fois sonnante prolongée en fin de signe, Rin Pen. Elle manie l'hyperbole et la fausse question insinuante. Qui a mis la France en cet état ? Fait assaut d'antithèses curieuses où s'opposent systématiquement eux et nous, en des formules dont le ton relève de la colère rassurante, ce que laisse résonner l'heptasyllabe de son slogan animé par une allitération des fricatives que n'aurait pas renié Victor Hugo, la France qui fera front. Hollande, lui, cajonne le poème prosaïque, l'euphémisme, la litote et la métonymie. Les deux substantifs qui composent son slogan, la France responsable, sont à la base d'une polémique qui les jette l'un contre l'autre et polarise un pathos au goût du jour qui navigue entre la métaphore de la gloire talismanique de la nation et l'hyperbole de la célébration pragmatique de la légitimité décisionnelle. Sur le plan iconique, l'affiche électorale de Marine Le Pen, cadrée de bleu, la montre qui vient vers le spectateur, armée d'un regard confiant et d'un sourire complice, marchant à grands pas et à l'avant-plan sur un chemin qui traverse une large campagne, tandis qu'en arrière-fond, vole au vent un immense drapeau tricolore autour duquel se devinent des oiseaux qui de loin l'escortent comme autant de bons présages, ou bien comme si elle était la volatile de tête d'un essaim d'oie. Vous aurez reconnu ici mon intertexte qui est Menot maître draveur de Félix-Antoine Savard. L'affiche de Hogan montre au bord d'un lac qu'il vient apparemment de traverser, les mains dans le dos, le regard au loin et le sourire patelin, tandis que sur le côté droit s'esquisse l'église d'un petit village qui était déjà là en 2012 et que sur la gauche, un avion vole probablement vers l'avenir. Sur le plan théâtral, les mises en scène de la parole publique requises sont d'une part le meeting de grande surface et les émissions de télévision, limitées à des entretiens, car Hollande a refusé tout débat avec extrême droite, comme Chirac en 2002. Le jeu de Marine Le Pen alterne les gestes et les répliques qui expriment une désolation irritée quand elle parle de l'autre et de l'état du pays, levant un bras au ciel, se tapant au front de la main et répétant des allusions ad libitum, appelant par exemple Hollande le résident provisoire. Elle a des gestes et des répliques bouffies d'en face quand elle parle d'elle-même et de la France qui fera front. Hollande, lui, est venu dans le registre de la comédie bourgeoise, manière de M. Perrichon qui pratique le dialogue mimé, qui a pris ses responsabilités, et le geste de proximité familière, arbore les mimiques et la bienveillance condescendante de celui à qui on ne l'a fait plus. Voilà, c'est à partir d'une telle effervescence sémiotique que le vote démocratique s'exercera au printemps 2017, non pas, ou si peu, à partir d'un examen serré des causes circonstancielles ou structurelles de la dette extérieure du pays. Et donc je tire de choses semblables, de semblables expériences. Il y a donc toujours une phase empirique dans la construction d'un concept. Je n'ai pas le temps de la résumer ici. Puis une phase conceptuelle qui m'amène à ceci. L'imaginaire social est le lieu d'une littérarité générale. Je passe aussi sur pourquoi j'utilise le mot littérarité, pas sémioticité, par exemple. Le lieu d'une littérarité générale, laquelle se définit comme le produit de l'action de cinq modes majeurs de sémiotisation. Premier mode, une narrativité qui conduit à l'émergence de récits instables et à l'édification de héros, lesquels peuvent être mythiques, transformés par leur légende ou tirés de la vie réelle. Deuxième mode, une poéticité qui vise la performation du langage et multiplie à cette fin les figures de sens, métaphores, métonymies, synecdoques, diffuse des signifiants phares. En voici un, tenez, dont je parlerai le 9 septembre prochain à la 9e conférence inaugurale du Christ. J'en profite pour vous y inviter. Ce sera dans cette université, donc le 9 septembre de 15h à 18h. Et le signifiant phare dont je parlerai, c'est le signifiant exit, qui, vous savez, a pris avec Brexit, Grexit, une série de choses, des usages assez intéressants. Poéticité qui impose une rythmicité qui scande et module les élans de la parole. Ce rythme, pour le constater, il suffit, par exemple, d'écouter un journal télévisé d'il y a 30 ans et un journal télévisé d'aujourd'hui, et vous voyez tout de suite combien le rythme de la langue a lui-même changé. Et comme disait Mallarmé, dès qu'il y a rythme, il y a poésie. Troisième mode de sémiotisation, une cognitivité qui déroule des façons de connaître et de faire connaître, basées sur des approximations, des choses vues, lues et entendues, des éléments d'ordre mythologique ou religieux, des considérations corrélées à ce qui est appelé science à tel ou tel moment de l'histoire. Quatrième mode, une théâtralité qui relève de la mise en scène de la parole dans les lieux de socialisation, dans le cérémonial privé, politique, culturel, militaire, dans les célébrations, les rituels, les parades, les gestuels et les scénographies sociales. Cinquième mode, une iconicité qui charroie un matériel composite de dessins, d'images, de photos, d'affiches, de peintures et aujourd'hui de films, de clips, de sites, etc. Ces cinq dimensions, je peux évidemment les dissocier par analyse, mais elles sont en fait imbriquées les unes dans les autres, dans la sphère des pratiques. L'imaginaire social et conséquemment l'action de ces cinq modes de sémiotisation se distribue systématiquement sur trois strates. Là-dessus, je suis fidèle à l'épistémologie weberienne, à savoir l'échelle individuelle, l'échelle des groupes sociaux et l'échelle macrosociale. Ainsi, au niveau narratif, tout individu possède et nourrit un récit de sa propre vie, tout groupe, toute institution nourrit un récit de son développement, toute grande collectivité entretient un récit de son histoire. Il en va de même pour moi dans les quatre autres modes de sémiotisation. Dès lors, la question était pourquoi y a-t-il du roman et non pas rien, non pas en raison de Létang et de Guérien, mais il y a du roman, en fait, ce serait très étonnant qu'il n'y en ait pas, ou en tout cas quelque chose qui soit du narratif aussi. S'il y a du roman, c'est parce qu'il y a une narrativité qui a une valeur anthropologique dans la société alentour. Ce qui fait aussi que le romanesque est variable, ce que je vais vous montrer dans deux instants en parlant d'un d'un roman de Franz Barthes qui s'appelle Le Costume et qui fait partie des récits, des romans de voyage sur le chômage qui se produisent aujourd'hui en France, où on voit par exemple que ce romanesque-là n'a plus rien à voir avec le romanesque de Balzac, par exemple. Le roman, deuxièmement, peut avoir une valeur critique, justement pour la raison qu'il est branché sur la narrativité de l'imaginaire social, c'est-à-dire que la littérature est vue ici comme une formalisation secondaire d'une sémiotisation qui est déjà là. Mais c'est parce que le roman travaille sur le narratif qu'il peut critiquer la narrativité ambiante. Il est très bien placé pour le faire. Et dernièrement, cependant, si le roman est branché d'abord sur la narrativité, comme la poésie est branchée d'abord sur la poéticité, cela ne signifie pas que c'est la seule dimension qui compte dans le romanesque. C'est absolument faux. Dans Les Misérables de Victor Hugo, il y a des chants, il y a la poésie, il y a toute une série de choses. Il y a des icônes. Même dans un article de Bourdieu, si vous prenez, vous voulez faire une sociocritique de Bourdieu, vous allez bien vous amuser, vous verrez qu'il y a toujours des triangles. Et c'est indiciel, c'est indiqué quelque chose. Donc il y a de l'iconicité, il y a toutes les dimensions sont toujours particulièrement là, mais dans un genre comme le roman privilégie, disons, le travail sur le narratif. Donc je m'intéresse depuis quelque temps à des romans qui portent sur le chômage, donc dans l'esprit de la sociocritique. Je rappelle qu'elle étudie le rapport entre le texte et la sémiosis sociale, c'est-à-dire entre la façon dont une société, par tous les moyens langagiers dont elle dispose, essaie d'exprimer ce qu'elle est, ce qu'elle a été, ce qu'elle pourrait devenir. Ça, c'est la sémiosis sociale, c'est la façon de nommer le préconcept, c'est au niveau empirique. À part ça, il y a différentes manières, différents concepts qui permettent de penser cette réalité empirique, des concepts qui sont partiels, comme sociolecte chez Zima, complexe discursif chez Régine Robin, etc., ou des concepts totalisants, comme le discours social chez Angenot, l'imaginaire social chez moi, la structure macro-idéologique chez Fossart, des choses semblables. Donc voilà, un sociocritique va prendre un dispositif sémiotique quelconque et essayer de voir quelle est sa place dans un imaginaire social et la relation que ce dispositif entretient avec l'ensemble donc, de cet imaginaire. C'est pourquoi je dis souvent que la sociocritique est un sport de plein air, parce qu'elle part d'une mise en texte et de son examen, mais elle ouvre ça sur l'air du large qui constitue l'imaginaire social. Je veux dire aussi autre chose, en faisant cela, elle respecte un principe qui m'est cher, c'est-à-dire qu'il s'agit en sociocritique d'inscrire l'idée de démocratisation dans le processus mental même qui produit la lecture. Et donc, en allant chercher comme ça des connexions entre un texte et la mise en texte et ce qui se passe aux alentours, je mobilise toute une série de voix et j'inscris le littéraire dans une continuité sémiotique avec tout ce qui se dit dans une démocratie libérale. Dans une dictature, ça se passe autrement. Donc, voici ce roman qui s'appelle « Le costume » de Franz Barthes, paru en 1998. Je vous résume rapidement. Madame Bénez est la veuve toute récente d'un certain José, ex-chauffeur de car qu'elle dit avoir créé en le poussant à développer une entreprise de production de spectacles pour le troisième âge. Découvrant un ticket de blanchisserie dans les poches du pantalon de son défunt, elle va à cette blanchisserie récupérer le magnifique costume en tweed royal, tweed écrit T-O-U-I-D-E, puis royal, et le porte au secours catholique, où la préposée lui affirme qu'elle cherchera un pauvre de qualité pour honorer une telle vêture. Quelques jours plus tard, Madame Bénès, Michkine de son prénom, croit voir son ancien mari José dans la rue. Mais évidemment, c'est un autre qui porte le costume de José. Cet autre s'appelle Augustin Benoît Schurt écrit C-H-E-U-R-T-E, lequel est chômeur, et donc à hériter du magnifique costume en question. Libidinale pratiquante, Micheline le poursuit de ses assiduités, sans que le dit Schurt accueille ses avances. Néanmoins, ils se fréquentent, elle apprend à connaître, il est fort un peu bizarre, il lui apprend un jour sa philosophie très particulière de la vie et sa conception du monde, j'en parlais tout à l'heure. Elle affirme être totalement d'accord avec lui, et se déclare même sa disciple, que ne ferait-on pas pour une bonne partie de jambes en l'air. Entre-temps, cependant, puisqu'il faut bien que le corps exulte et puisque vraiment Augustin ne réagit pas, Elle se tape le vieux charme que lui a imposé sa voisine Madame Bouffrette, elle aussi très horizontale de conviction. Micheline va jusqu'à essayer de violer Augustin Benoît Short, mais elle ne parvient pas à ses fins tant il s'esquive. Elle finit par se fiancer avec Charles, avec le vieux Charles, et lors de la fête de fiançailles qui suit, Augustin Benoît Short, qui a été invité, soudain prend fureur, il soupçonne Micheline de ne s'être intéressée à lui que pour récupérer le costume qu'il porte, et non pour sa philosophie somptueuse dont il croyait l'avoir convaincu. Déçu, il se déshabille, part en courant, tout nu, et va se jeter dans la Meuse. Alors, a priori, c'est un roman comme ça, disons, marrant, un peu léger, très curieux, ouf. Comme une sorte donc d'un roman un peu léger, mais c'est bien autre chose. Et pour deux raisons, il attire l'attention. C'est d'abord, il est paru en 98. En 98, c'est entre 97 et 99, comme vous le savez. En 97, la France comptait 3 200 000 chômeurs. En 99, elle en comptait 3 millions. Ce qui permettait au candidat Chirac, à la élection présidentielle de 98, de se présenter comme quelqu'un qui avait infléchi la courbe du chômage. Déjà, il y avait 200 000 chômeurs de moins, il y avait quand même 3 millions, hein, mais bon, c'était un détail. Et donc là, des romans pareils se posent une question qui va devenir très intéressante par la suite, c'est comment mettre un texte en chômage, comment raconter l'existence d'un chômeur à une époque où la représentation du chômeur et du chômage est essentiellement une représentation statistique. Deuxième raison pour laquelle il faut s'intéresser à ce roman de près, c'est que la sociocritique a pour habitude de prendre en compte la transversalité des relations sémiotiques entre les signes, de même d'ailleurs que quand elle pratique l'examen de l'imaginaire social, ce qui compte c'est les mouvements de sens qu'il faut aller chercher. Eh bien ici c'est bien le cas, il y a une convertibilité des champs sémantiques et des isotopies qui se passe entre le chômage et l'amour, et donc la relation ratée sur le plan érotique entre Augustin et Micheline. Bon, je vais faire ça très scolairement, mais si j'écrivais le texte vraiment, bien entendu, je ne passerais pas mon temps à donner les catégories comme ça. J'écrirais avec, je l'espère, en tendant à rejoindre mon maître Gilles Marcotte comme grand prosateur. Mais bon, disons, scolairement, je dis, du côté de la poéticité, que se passe-t-il ? Mais le nom d'Augustin Benoît Short commence par deux noms religieux et se casse la figure sur un mot bizarre, « Short », qui mixe les mots « chute » et « heure », se rattache aussi à l'argent via l'hypogramme « chair » ou « cherté » et surtout aux vêtements, car il y a une aphérèse, là, il y a une amputation de « t-shirt ». Et donc, ça met tout de suite le « t-shirt » en opposition avec le costume, et ça indique que le don du costume a produit une sorte de névrose, de schisme dans le personnage. Le recouvrement de peau luxueux, qu'il ait été offert par un organisme de charité auquel il a été donné par une bonne bourgeoise dont le défunt mari était un entrepreneur en pleine ascension, il venait de conquérir le marché départemental, ce phénomène-là bizarre inscrit dans le texte une image de la désindustrialisation en cours du pays et désigne que la forme d'aide qui est offerte aux chômeurs est dorénavant considérée comme une charité publique, non pas comme un droit. Se reprendre la narrativité, et la non-histoire du non-amour qu'Augustin Benoît Short vit avec Micheline doit aussi être lue comme le résultat d'une castration sociale que le texte associe au chômage. Short vit décalé dans un monde qui est un vaste marché, il y vit blessé, dénué de tout récit de vie personnelle, et il n'y a sinon un récit comme ça absurde, vous allez voir pourquoi dans deux secondes, et il n'a aucun récit collectif, que ce soit au niveau des groupes ou au niveau macrosocial, pour rattacher sa propre condition. En tout cas, le texte le montre systématiquement absolument solitaire et sans référence comme ça extérieure sur le plan narratif. Toujours sur le plan narratif, tous ceux qui ont un jour travaillé sur les représentations de la pauvreté et des écarts de fortune aperçoivent immédiatement que les initiales du nom d'Augustin Benoît Short sont ABC. Et l'ABC, dans la tradition du roman réaliste et du roman social, c'est le surnom du peuple, celui des misérables au sens économique et non moral du terme. Dans Les Misérables de Hugo, les révolutionnaires groupés autour d'Enjolras ont pour mission de défendre l'ABC. Ici, cependant, l'ABC, ce n'est pas le peuple, c'est un chômeur tout seul, portant son déclassement comme on porte un habit ou le maquillant sous un habit, mais ici aussi portant dérisoirement le signe même de la sanction sociale qu'il subit et qu'on lui administre au sens propre. Chômeur qui est ainsi le nouveau paradigme figurant au centre du complexe représentationnel de la pauvreté, où il a pris la place du travailleur, qui était là dans les années, par exemple, 70-80. Du peuple à Augustin Benoît Short, qui est seul comme un cactus, le glissement est effarant et indique la disparition de tout récit collectif d'émancipation sociale. Se reprend la cognitivité. Le nom lui-même respecte l'ordre alphabétique et projette en conséquence sur le sujet la névrose qui est constitutive de son rapport au monde social. Cette névrose en est une de sublimation absurde de sa condition grâce à un savoir inouï, une véritable philosophie du monde qui lui est propre et qu'il a essayé donc de transmettre à Micheline. Augustin juge en effet que le monde est livré au chaos et à la manière d'un fou littéraire, il a l'idée de vouloir changer les choses et de leur redonner un ordre. Ce passage du chaos à l'ordre, il le réalise expérimentalement dans son appartement. Je vous cite comment ça se passe. « Le logement était stupéfiant. Il y régnait un chaos d'une invraisemblable rigueur. Tout était rangé, mais rien ne semblait à sa place. Il y avait des piles d'objets hétéroclites, des serviettes éponges mêlées à des livres, des ustensiles de cuisine à côté d'une collection de chausse-pieds, des briquets dans des bassines dans la baignoire, des pattes de lapin accrochées avec des pinces à linge sur une corde pendue au tuyau du toile. « J'aime l'ordre », précisa Augustin. « Qu'est-ce que c'est que cet ordre ? C'est en fait le classement alphabétique. « Observez cette pièce, dit Augustin Micheline, tout y est ordonné selon l'alphabet qui répartit ses éléments de gauche à droite ou bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Si je dresse le couvert, je dépose l'assiette, A, puis le couteau, C, puis la cuillère, C plus loin, puis la fourchette, F, puis la serviette, S, enfin le verre. Tout est dans l'ordre donc. Nous sommes des dictionnaires, mais les mots que nous avons attribués aux choses qui nous entourent, pour valables qu'ils soient sur le plan esthétique, ne correspondent pratiquement jamais à la hiérarchie alphabétique à laquelle sont assujettis les objets, les vivants et les dieux. Et le monde est devenu illisible, Micheline. Personne ne le comprend plus. Voilà la philosophie donc d'Augustin. Donc le savoir d'Augustin s'oppose absurdement à quoi ? Au savoir dominant qui le caractérise dans l'imaginaire social, c'est-à-dire à l'économie, au calcul des probabilités, à la statistique. Les objets qu'il ramène chez lui sont débarrassés de leur utilité coutumière, à l'exemple de leur collectionneur, devenu inutile lui-même dans la société qui l'entoure. Je vais passer quelques petites choses. Sur le plan de la théâtralité, je passe ce que j'aurais eu à dire, mais disons que nous sommes ici dans un accessoire qui est le costume, hein, donc il y a un jeu aussi du personnage qui est présenté exactement comme s'il était un acteur de théâtre et de comédie. Je termine sur l'iconicité, où là je vais prendre encore 2 minutes peut-être pour vous dire ce qu'il y a, parce que ça me conduit à un élément qui fait la joie de tout chercheur, c'est d'arriver à trouver à un moment donné dans ce qui l'entoure une des raisons qui justifie l'interprétation du roman qu'il a trouvé. Un véritable bonheur que je crois que je dois à un monsieur que je n'aime pas beaucoup, mais soit. Donc ce reprend iconique. Là, d'une part, le roman oppose l'image du chômeur costumé et l'homme nu, celui qui va se suicider après avoir jeté son costume par terre. Deuxièmement, ce n'est pas iconique, deuxième image, il y a une image latente, c'est que le roman est habité en permanence par le fantôme de la courbe du chômage et des statistiques. On le voit à divers éléments, je vais vous en parler. La rupture définitive entre Augustin et Micheline survient après une soirée alcoolisée où Augustin apprend donc qu'il porte le costume de l'ancien mari de Micheline. Lui qui croyait qu'elle l'adulait en raison de sa brillante théorie de l'alphabétisme, qu'elle lui avait dit accepter, tombe de haut et se dit alors donc, que c'est en raison du costume qu'elle voudrait récupérer, qu'elle voulait le circonvenir. Que fait Augustin ? Il tombe la veste et le reste, se retrouve bientôt nu, déclarant alphabétiquement « Adam, première lettre, premier homme ». Le voilà donc tout nu comme Adam, ça m'a rappelé tout de suite la phrase de Freud « L'anatomie, c'est le destin ». Car Augustin Benoît Short regagne en effet là son destin en se débarrassant des apparences et en refusant de jouir du seul pouvoir qu'il aurait pu avoir s'il en avait été conscient, celui de la séduction. Seule la séduction, disait Baudrillard, s'oppose radicalement à l'anatomie comme destin. L'image d'Augustin dans son beau costume est ainsi une allégorie du capitalisme de séduction et de sa représentation qui maquille systématiquement tout objet, quel qu'il soit, en apparence de richesse, afin de le vendre à toutes les bourses possibles. J'ai sciemment obligé de vous confier un détail. Que faisait Augustin Benoît Short avant d'être mis au chômage ? Il travaillait dans un institut de statistique. Et que dit-il à Micheline et à l'Assemblée au moment de les quitter ? Cette phrase étonnante, statistiquement, je ne peux que vous dire adieu. Et de s'en aller immédiatement se jeter dans la Meuse. Retournant à son destin, le personnage va ainsi à la mort, ce qui équivaut au chômage et à la figure imposée d'un suicide social, et ceci associe le savoir dominant, la statistique, à un adieu à la société salariale. Et ce qui m'a ravi, c'est de voir le vendredi 27 mai 2016, interpellé à Lunel, dans l'Hérault, dans la région de Montpellier, au sujet de la loi travail par des grévistes, Emmanuel Macron dit à un type qui l'interpellait « Vous me faites pas peur avec votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard est de travailler. »